Alors, nous abordons la quatrième et avant-dernière séance consacrée à cette thématique, la représentation animale dans l'art occidental. Alors, je vous rappelle la démarche qui a été la nôtre. Durant deux séances, on a évoqué, à travers les exemples, à travers les cas du chien et du singe, comment les animaux pouvaient être interprétés de façon symbolique, comment dans l'art occidental, on a volontiers utiliser les animaux pour leur donner décidément des sens emblématiques divers. La fois dernière, nous avions, pour poursuivre ce regard sur la représentation animale, regardé quatre grands cycles artistiques du XVIe au XIXe siècle pour voir comment, dans des ensembles artistiques plus importants, on avait pu utiliser la figure animale. Aujourd'hui, on va un peu continuer sur la même lancée, mais un peu différemment. Je vais vous passer une vingtaine de diapositives qui représentent exclusivement des peintures. Et on va, à travers elles, essayer de considérer un certain nombre de représentations animales à travers des thématiques qui sont des espèces de leitmotifs que l'on voit apparaître très régulièrement dans l'art occidental. Les thématiques que nous allons voir, de manière spécifique ou de manière un peu plus élargie, sont vraiment des thématiques qui reviennent régulièrement dans l'art occidental et qui utilisent des animaux. C'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui, voir comment il y a, de manière récurrente, une utilisation de l'animal à travers certains thèmes dans l'art occidental. Voilà en gros quel est le sujet du jour. Ça va être assez simple, on va regarder une vingtaine de diapos et puis on va les commenter une à une, puis après sur les suivantes, etc. Voilà. Donc, il y a un plan assez simple. Dans certains cas, d'ailleurs, certains des commentaires que nous aurons à faire sont assez évidents, hein, ils ne sont pas très compliqués. Dans d'autres cas, c'est un peu plus corsé, vous le verrez. Enfin, je crois, du moins. Bref, nous allons voir. On va voir des choses simples et qui ne posent pas de gros problèmes et d'autres qui sont, à mon avis, un peu plus complexes. Alors, on va commencer par un premier exemple qui n'est pas des plus compliqués, enfin on verra, et qui correspond à l'œuvre que vous voyez là. Sachant qu'on essaiera quand même à chaque fois, au-delà de la question de la représentation animale et du sujet qui est donc traité, on essaiera aussi à chaque fois peut-être de voir dans quel secteur géographique l'œuvre a été produite, peut-être par quel artiste, hein, et aussi à quelle époque, hein, manière de compléter notre regard. Alors, de quoi est-il question sur cette œuvre ?
Animal.
Bien. Vous l'avez dit, hein, ce ne serait pas trop compliqué pour commencer. Évidemment, c'est Hannibal qui est ici représenté. Hein. À quel moment, peut-être ? Pardon. Oui, c'est ça. C'est effectivement Hannibal qui se propose pas de franchir les Alpes, hein, ici représenté. Très bien. Est-ce que, maintenant qu'on a identifié le sujet, ça n'est pas le plus compliqué, hein, est-ce que vous avez une idée simplement de qui a pu réaliser cette œuvre, ou en tout cas dans quel contexte, ou à quelle époque, est-ce que vous auriez une petite idée de ça ?
Oui,
19e.
Ah,
non, je vais 18,
plus
tôt,
moi,
de la
17.
17e, vous ?
Non.
Non.
J'en sais rien. Parce que c'était au moment où on veut mettre en avant un peu la force, les batailles.
Oui, en tout cas, c'est effectivement, on souhaite là mettre en avant ce personnage un peu charismatique, d'une certaine manière, qui est Hannibal. Hein. Donc, vous hésitez entre le 17 et le 19e siècle, si j'entends bien. Et vous avez une idée du...
Le 18.
Ah, donc la part en deux, 18e. Et vous avez une idée d'un artiste, peut-être, ou d'un territoire où l'œuvre a été faite? Non.
L'Italie.
Pardon?
Italie.
L'Italie.
Il faut bien donner un pays.
Non, vous pensez, vous aviez d'autres idées ? Non ?
Non.
Bon, on ramasse tout de suite les copies, hein, parce que je vous ai dit, ce serait une séance très simple. C'est une œuvre qui est due,
ça me semble, à Nicolas Poussin. Donc on est au XVIIe siècle, effectivement. On est autant en France qu'en Italie, si j'ose dire. Parce que vous savez que Nicolas Poussin est né à côté de Rouen, enfin aux Antilles. Mais il est mort à Rome. Hein, donc c'est un artiste franco-italien que Nicolas Poussin. Et c'est à lui qu'on attribue cette œuvre. L'attribution n'est pas acceptée par tout le monde. Donc ce n'est pas Poussin, c'est proche de lui. Donc c'est une œuvre sans doute réalisée en Italie, mais par un peintre français, ou du moins par un proche, et qui représente effectivement un animal.
Vous n'avez pas vu beaucoup d'éléphants?
Non, mais aujourd'hui, vous savez, on voit tout, c'est facile.
Voilà.
À cette époque, effectivement, ce n'est pas forcément évident d'avoir un éléphant sous la dent. Alors, regardons un autre tableau. Si on veut voir ce qu'il a.
Ça, c'est une scène biblique.
Oui, ça, c'est une scène biblique.
Ça me rappelle quelque chose. Oui, c'est une scène biblique.
Une scène biblique, ça vous rappelle quelque chose. Oui. C'est bien que ça rappelle, mais il faut savoir quoi. Oui,
le roi de Chérie contre l'ange.
C'est l'âne qui est là.
Pardon?
C'est pas Noé qui voulait faire
avancer son âne. Ah, c'est pas Noé. Alors, effectivement, tout comme dans le tableau précédent, le héros animal, c'était l'éléphant, là, le héros animal, c'est l'âne, ou plutôt une ânesse. Là, qui voulait sur la voie. Pardon?
Il y en a un qui a eu une histoire qui voulait faire avancer son âne et l'âne n'avançait pas.
Exact. Alors, il y a Buridan, mais là, c'est pas Buridan.
Non, c'est une ânesse.
Donc, vous avez raison, vous avez identifié que c'est une scène biblique, ok, mais laquelle? Et c'est une thématique qui a été incroyablement présentée. Hein. Ah oui, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer, mais vous savez, je profite de ces ateliers pour faire des piqûres de rappel. Hein. Vous connaissez bien là l'angle pédagogique de ces ateliers. Mais effectivement, j'avais eu l'occasion déjà de vous parler de ça, enfin, vous de m'en parler, et on a vu comment depuis l'époque romane jusqu'au XIXe siècle, en gros, ce thème avait été souvent abordé, que je vois par les plus grands, hein. Depuis la cathédrale d'Autun jusqu'à Rembrandt, ce thème a été abordé. Hein. Donc c'est un thème récurrent, fréquent.
C'est un saint.
Un saint?
Non, c'est un saint.
Alors, il y a effectivement un ange, il y a une ânesse, et sur l'ânesse, il y a un personnage. Bon. Mais quel est ce personnage qui est sur l'ânesse?
Je parlais de Noé, parce qu'il me semble que c'est l'âne qui a trop bu, non?
Que l'âne a trop bu?
Non,
ni l'âne, ni le personnage. Alors, Noé, effectivement, à un moment de sa vie, a trop bu, vous avez raison. Hein. Mais c'est un autre thème. Hein. C'est le thème de l'ivresse de Noé,
oui, c'est
pas vrai. Qui est effectivement un thème important, mais là, c'est pas ce thème-là. Hein. Mais oui, l'ivresse de Noé, on en a parlé à plusieurs reprises, vous avez raison. Alors, bon, c'est une chose de savoir qui est représenté, mais une autre chose de savoir qu'est-ce que dit la scène. Cette scène, qu'est-ce qui se passe dans cette scène?
L'ange, il a une épée, c'est bizarre. L'ange a une épée.
Ouais.
Oh, non. Un ange,
donc vous avez dit un peu, parce que encore une fois, on peut s'interroger sur le nom du personnage, mais voir d'abord ce qui se passe. Vous avez un petit peu dit ce qui se passait d'ailleurs. Il se passe quoi?
Il brutalise.
Alors, le personnage brutalise son ânesse, oui. Et pourquoi?
Elle va faire avancer
parce qu'évidemment elle refuse d'avancer.
Oui, elle est fatiguée.
Elle est fatiguée.
Ou c'est l'ange qui quelque part l'incite
à ne pas avancer. D'ailleurs, l'ange, vous voyez, est à un endroit et avec effectivement un glaive.
Mais il y a deux armes. Il y a le bâton et.
Alors il y a effectivement le bâton du personnage qui est sur l'ânesse, qui lui sert à taper sur son ânesse, et il y a l'ange qui tient cette sorte de glaive. Hein, donc il y a effectivement deux armes. Bah, évidemment, on a l'impression, rien qu'en regardant, hein, mais c'est ce que vous aviez dit, hein,
que le personnage sur l'ânesse tape sur son ânesse avec ce bâton pour essayer de la faire avancer, mais que l'ange qui est devant l'ânesse apparaît avec son glaive pour empêcher l'ânesse d'avancer. L'ânesse, c'est quand même compliqué, elle est entre le marteau et l'enclume. Elle est en train de dessus pour qu'elle avance, de qu'il y a un ange qui est là pour dire de ne pas avancer. Mettez-vous à sa place, c'est quand même compliqué, non? Nous sommes, mettons-nous tous à face de cette année, soyons des ânesses, mettons-nous à sa place et voyons que sa position est quand même terrible. On lui demande d'avancer et on lui refuse de le faire. Vous trouvez ça juste, vous?
Ben non, oui.
Ah non, c'est pas juste. Cet ange, c'est qui, c'est quoi? Il vient d'où?
Du ciel.
Du ciel. L'ange vient du ciel. Bon. Autrement dit, c'est le messager de qui, de quoi?
De Dieu.
De Dieu. A priori, l'ange est un messager de Dieu. Et s'il empêche l'âme d'avancer, c'est vrai pourquoi?
Il y a avec Sodome et Gomorre.
Non.
Non. Enfin, il y a un truc où il se.
Il a deviné
qu'il ne fallait pas qu'il avance.
Voilà.
Voilà,
il y avait une sorte de danger. De toute façon, l'ange lui a dit bien à l'ânesse, l'ordre de ne pas avancer.
Oui, c'est ça.
De toute façon, l'ange est un envoyé de Dieu, et l'envoyé de Dieu dit à l'âne de la messe de ne pas avancer. Donc la messe n'a pas envie d'avancer, puisque Dieu lui dit de ne pas avancer. Il ne lui dit même pas. Mais il y a l'autre qui s'excite là-dessus et qui veut avancer quand même.
Comme s'il ne voyait pas l'ange.
Pardon ?
Il ne voit pas l'ange.
Alors, c'est vrai que l'ange est un peu invisible. C'est vrai.
Oui, mais la messe regarde bien.
Mais la messe, elle le voit. D'ailleurs, elle ne fait pas que le voir. La messe, alors qu'elle est ployée par terre parce qu'elle ne veut pas avancer et qu'il y a l'autre qui lui fait mal, alors bon, c'est qu'on la peut. Hein. Mais la messe, regardez son attitude aussi.
Elle s'agenouille.
Pardon, elle s'agenouille. Mais il y a aussi quelque chose dans sa physionomie que.
Elle a peur, elle le supplie.
Elle le supplie, mais comment?
En hennissant.
Pardon? Un peu plus. C'est la Bible, il se passe des choses qui ne se passent pas dans la réalité. Elle raconte des choses. C'est-à-dire qu'elle prend la parole. Cette ânesse-là, c'est pas mon ânesse à moi. Hein. Encore, mon ânesse, elle parle beaucoup, mais là, c'est une ânesse qui parle. Elle parle. Enfin, elle se met à parler. Parce que, quelque part, l'ange du Seigneur, ou le Seigneur lui-même, lui permet de parler. Qu'est-ce qu'elle dit? D'ailleurs, c'est formidable, continue à me taper, c'est génial, j'aime ça. Non? À votre avis, qu'est-ce qu'elle dit?
Elle supplie d'arrêter.
Ben voilà, elle supplie celui qui est en train de le taper de ne pas le taper, parce que, en gros, elle dit, bah, écoute, t'as pas de raison de taper dessus quand même. Enfin, Alors, le personnage qui est sur la messe, son nom vous est parvenu?
Non.
Il s'appelle Balaam. Balaam. L'épisode de l'ânesse de Balaam. C'est important de garder ce nom-là, parce que vous le verrez partout. Hein. Je vous le disais, ne serait-ce qu'à la cathédrale d'Autun. Vous allez à Autun, vous avez devant vous le tympan. Alors, je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche. Je crois que c'est à gauche. Encore, je ne suis pas sûr. Vous avez la représentation de l'ânesse de Balaam. Et là, je vous prends l'exemple du XVIe siècle. Vous allez à part le musée Koniecgel, vous verrez un très beau tableau de Rembrandt, jeune, qui présente le même épisode. Et vous le verrez des dizaines de fois. Hein. C'est l'épisode de l'ânesse de Balaam, et très très fréquemment montré. En gros, l'épisode, c'est celui-là. Hein. Balaam est une sorte de devin, un peu prophétique. Bon. Et un jour, Balak, qui est un roi d'une de ces contrées proches orientales, où se passe tant de choses et peu de bibliques, ce roi qui s'appelle Balak, convoque Balaam pour lui donner une mission particulière. Il se trouve que les Hébreux veulent passer par l'utilisateur de Balak, et Balaam est convoqué par Balak pour maudire les Hébreux et les faire partir de ce territoire. Évidemment, Dieu n'est pas du tout d'accord, et au moment où Balaam fait le trajet pour aller voir Balak, et donc maudire les Hébreux, l'ange de Dieu intervient et empêche l'ânesse de poursuivre le parcours, si vous voulez. Et donc, intervient l'épisode que vous voyez là. L'ange du Seigneur empêche l'ânesse d'aller plus loin, elle se couche, elle ne va pas plus loin. Et Balaam, évidemment agacé par ça, tape sur son ânesse, et l'ânesse lui dit, miraculeusement. Enfin, pour être une tape dessus, moi je ne peux pas faire autre chose, on me demande de ne pas aller plus loin. Bon. Et là, Balaam tilte, se dit, oh, c'est la révélation, si vous voulez, il se dit, ben, effectivement, je tape mon ânesse, on ne peut pas aller plus loin, parce que manifestement, Dieu ne veut pas. Et soudain, il a une espèce de révélation, hein, une révélation divine, si vous voulez. Et finalement, il va bel et bien aller voir Balak, mais finalement, faire l'inverse de ce qu'il lui demande. C'est-à-dire qu'il va, non pas empêcher les Hébreux de passer, mais les bénir pour qu'ils le fassent. Voilà. Si vous voulez, c'est une manière de montrer comment l'ange du Seigneur peut avoir, et le Seigneur lui-même, hein, peut, via les animaux, en l'occurrence, hein, faire passer la bonne parole, en quelque sorte. Donc c'est évidemment un épisode riche de sens. Donc l'épisode de l'ânesse de Balaam est tellement important où un animal est une sorte de vecteur du message divin. Bien moins que ça. Une idée de la date, une idée du contexte dans lequel cette œuvre a été réalisée.
16e.
France. C'est ça. Alors, on n'est pas très loin, encore que ce soit pas tout à fait ça. Vous voyez que je suis diplomate, moi aussi. Hein. Voilà, c'est une œuvre faite par un Hollandais du 17e. Hein. On est en 1622, mais enfin, il est né au 16e. Hein. Puis la Hollande n'est pas très loin de la France. Hein. Et puis, Lachmann est un artiste assez, entre guillemets, classique, Lachmann. Vous voyez, c'est un artiste, je comprends pourquoi vous avez dit français, hein, c'est un artiste assez classique dans sa mise. Donc, quelque part, on peut... on était pas si loin que ça. En tout cas, Balaam et son ânesse, gardons ça en tête, c'est un thème important. Ah oui, il y a un cheval en plein milieu. C'est vraiment celui qui nous intéresse.
C'est là, à Rome.
Effectivement, la scène se situe à Rome. Et oui, on reconnaît la colonne Trajan. Voilà qui nous situe tout de suite la ville où nous trouvons. Nous sommes à Rome, la colonne Trajan est là comme pour nous le montrer. Alors, que se passe-t-il ? Alors, il y a effectivement une sorte d'incendie.
Ouais.
Cet incendie, il est où ? Il est où ?
Derrière.
Et devant, il y a une lueur sur le devant.
Ben, je crois qu'il est pas mal devant. Hein.
Ça sort.
En fait, toutes ces fumées que vous voyez là,
oui, ça sort,
elles viennent de là.
Ouais.
C'est-à-dire d'où, précisément ?
Ben, du sous-sol.
Voilà, du sol. Et quand vous dites le sol, c'est le sol ? Voilà, il y a une sorte de souterrain.
De
grotte. Il y a une sorte de grotte, de gouffre même. Vous voyez au premier plan qu'il y a une sorte de gouffre qui est ouvert. Et l'incendie, comme vous le disiez, il est là. C'est quoi ce gouffre ?
Les enfers.
C'est l'enfer. Bon, quand vous êtes allé à Rome, vous avez vu le gouffre de l'enfer.
Bah, bien sûr.
D'accord. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe là ?
C'est une situation de métro.
Voilà.
Il n'y a pas de métro. Qu'est-ce qui se passe ?
C'est de l'allégorie.
Une allégorie, c'est
de... un épisode.
Alors, c'est plutôt qu'une allégorie, c'est un épisode.
Un épisode mythologique aussi.
Alors, c'est vrai que ça pourrait faire penser à Néron, mais Néron a eu beaucoup de pouvoir et beaucoup de cinglerie aussi. Je ne sache pas qu'il ait fait ouvrir un gouffre enflammé en plein du droit. Mais enfin, il en aurait bien été capable. Hein. Donc, c'est vrai que Néron a fait incendier la ville, hein, mais de là à faire creuser un gouffre, on vous l'avez dit, non. Et là, vous l'avez dit, ce gouffre, c'est plutôt l'enfer. Donc, on a là un épisode qui est tiré de quoi, oui ? Parce que c'est pas une allégorie, hein, c'est un épisode d'autre chose.
Ah, de l'Odyssée, non ?
Non.
Non,
mais c'était...
Ah ben, bah, pas à Rome, qu'est-ce que...
Non, à Rome...
Oui, non.
Pas trop l'Odyssée aller jusqu'au...
Non, je pensais aux visites des enfers. Donc...
Encore que quelque part, la création de Rome par aîné. en est le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez, vous voyez quoi?
Des bâtiments.
On voit des bâtiments. Au milieu des bâtiments, il y a un groupe enflammé. On est à Rome puisqu'on voit la colonne Trajan.
Oui, mais il y a ce cavalier.
Qu'est-ce qu'il fait?
Il est sur le cheval.
Il est sur le cheval. Il voit un cavalier.
On dirait qu'il veut sauter au-dessus du gouffre.
Bah, on dirait qu'il veut sauter au-dessus du gouffre.
Oui.
C'est pas qu'on dirait, c'est que c'est ce qu'on voit.
Il
est là. Vous voyez tous, hein. On a un cavalier là sur un cheval, il est au bord du gouffre et il est en train d'exciter sa monture pour aller plus loin. Mais s'il va plus loin, il tombe dans le gouffre. Donc effectivement, on a là un cavalier en plein milieu de Rome qui veut aller dans un gouffre qui s'est ouvert et qui est sur les enfers.
C'est, le seul...
c'est l'image qu'il montre, hein. Même si on ne sait pas d'où il s'agit, on voit.
C'est le seul quasiment qui est en mouvement d'ailleurs, parce que les autres semblent observer, sont statiques.
Oui, les autres effectivement regardent, hein, tout autour il y a du monde qui regarde ce personnage qui va se précipiter dans le gouffre. Effectivement, il va sauter parce que vu l'énergie qu'il a, vous voyez le geste pour exciter sa monture. S'il excite, le cheval, il y est. Donc a priori. Lui qui est au bord du gouffre, enfin vous voyez comme moi, hein, il a, le gouffre est là, pouf, il va tomber. Pourquoi?
Avec son cheval,
ouais.
Mais ce qui est curieux, c'est que ça représente Rome, mais que l'épisode, il est presque à la naissance de Rome, quand Rémus saute le fossé que son frère Romulus lui a interdit. Et c'est ça qui est un peu paraît curieux dans ça, c'est qu'on a l'impression que c'est bien après, alors que l'épisode est à l'origine de Rome.
Oui, c'est-à-dire que vous faites là un parallèle entre le tracement ou traçage, je sais plus ce qu'on dit, du pomerium, c'est-à-dire de l'enceinte de Rome, ce que Romulus et Rémus ont tracé, et que là, je ne sais jamais, c'est Rémus qui tient la charrue, et Rémus qui saute par-dessus. Je n'aurais jamais ça. Voilà. Alors évidemment, ça c'est l'origine de Rome. Là, Rome est déjà construite. Hein. Donc on est là après la période de Romulus et Rémus, après la création et la construction de Rome.
Et donc il veut sauter également.
Donc il veut sauter. Donc vous, ça vous rappelle ça?
Oui. Les monuments sont abîmés.
Oui. Oui. Ah ben c'est un peu déjà des vieux monuments. Ils ont sûrement quelques siècles derrière eux, donc ils sont un peu abîmés, oui. Enfin, ils ne sont pas tant que ça, surtout quand on sait qu'il y a le gouffre de l'enfer en plein milieu.
C'est la chute de Rome avec les barbares.
Alors, c'est vrai que ça pourrait faire penser à ça. Simplement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve tous étonnamment tranquilles. D'ailleurs, quelqu'un l'a remarqué tout à l'heure. Hein. Alors que vraiment, il y a un élément pas tranquille, c'est lui qui se jette dans le gouffre. À votre avis, pourquoi ce personnage cheval, au vu de tout le monde, et les gens autour ont l'air d'être des regardeurs, quoi. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il jette dans ce gouffre qui est celui dont vous avez dit que c'était le gouffre de l'enfer?
Il a été condamné.
Alors, ça pourrait être une chose. Peut-être qu'il a été condamné et que il se jette dans le gouffre parce que il est condamné. Sauf qu'un condamné, normalement, il est toujours entravé. Il y va sciemment. Exactement, il va sciemment.
Non, mais c'est symbolique d'année, quoi, quelque part.
Donc, il irait sciemment du fait d'une condamnation, et condamné, il va quand même sciemment au supplice, d'une certaine manière. Ça, c'est une piste qui est peut-être intéressante. Il serait condamné pourquoi? Et d'abord, est-ce qu'il serait seul? Essayez d'inventer en vous mettant à la place des antiques. Pourquoi en plein milieu de Rome un gouffre? Encore une fois, si vous allez à Rome aujourd'hui, je ne crois pas que vous voyez le gouffre de l'enfer. Hein.
Non.
Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il en a un là soudain? Et pourquoi ce personnage se jette dedans? Peut-être est-il effectivement condamné, mais est-il condamné lui seul? Pourquoi se sacrifie-t-il?
Voilà, pour sauver Rome.
Et bien voilà, il se sacrifie pour sauver Rome. C'est pour ça que les autres regardent en disant pour vous qui sautent, hein, c'est une manière de sauver la cité entière. Ça, c'est très antique, si vous voulez. Hein. Effectivement, l'épisode que vous voyez là est un épisode qui est un épisode légendaire de l'histoire de Rome. Hein. On dit que jadis, on situe ça dans la période archaïque, peut-être 5e siècle avant Jésus-Christ, Rome existe, hein, et que la ville avait été mal vue par le dieu des enfers, Pluton, Hadès, chez les Grecs, parce que une dévotion que la ville devait à Pluton n'avait pas été réalisée. Donc Pluton n'était pas d'accord. Et parce qu'il n'était pas d'accord, il a décidé d'ouvrir en pleine lune de Rome un gouffre donnant sur les enfers. C'était le début, si vous voulez, de la réplique de Pluton à ce manque de dévotion des habitants de Rome. Mais évidemment, Pluton voulait aller plus loin. Et pour, rassasier Pluton de sa colère, un Romain, un jeune Romain qui s'appelle Marcus Curtius, a décidé avec son cheval de se précipiter dans l'enfer. Et c'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, pour sauver la ville de Rome, il s'est immolé. Et donc, avec son cheval, tout s'est précipité dans le monde de l'enfer, et l'enfer s'est refermé sur lui. Si vous allez à Rome aujourd'hui, vous verrez plus rien. Vous trouvez quand même sur le Forum romain un lieu qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, mais qui fait référence à Marcus Curtius, et qui est le lieu où, soi-disant, le gouffre s'est ouvert et le gouffre s'est refermé après sacrifice de ce jeune soldat. Alors ça, c'est pareil, c'est un thème que vous verrez beaucoup. Hein. Ce type qui... Ah oui, il y a plein, plein. Ça, à votre avis, l'œuvre a été faite où et quand?
18e.
Et oui, c'est un petit côté de Robert, vous avez raison, 18e, c'est bien. Hein.
Oui, 18e.
Et où?
En France?
Non, en Italie.
Italie. Vous avez peut-être l'idée d'un petit nom? Hein? Allez, un petit nom d'un artiste italien du 18e qui aime bien faire ce genre de choses. Allez. Allez, on fait un petit effort là, on se mobilise, on s'engage, et on retrouve ce peintre italien du 18e qui fait des ruines un peu comme Hubert Robert en France. Ouais, parce que là, vous avez tout juste pour l'instant, hein, 18e Italie. Reste à trouver le nom du peintre, c'est plus facile. Ah, vous n'osez pas. Allez, alors je vous sens un peu timide dans cette fin
d'après-midi.
C'est Panini, hein. Panini est un artiste italien du 18e qui fait beaucoup de choses comme ça, des paysages et des ruines, effectivement souvent un peu cassées, un peu, vous avez bien vu, c'est un peu, voilà, un peu mutilé, etc. Donc voilà une œuvre très très typique de Panini, présentant Marcus Curtius, oh pardonnez-moi, qui Curtis le U, je sais quelquefois ça s'imprime mal. Curtius, par exemple, moi les armes s'impriment pas, faut que je capture. C'est quel sens ça? Ces appareils sont absolument pas du tout. Bref, Marcus Curtius et pas Curtis. Bon.
Demi-Curtis.
Oui, voilà. Ne confondons pas avec certains mêmes choses.
C'est le petit tonique.
Alors. Il y a évidemment des poissons, il y en a surtout. Hein.
Un dauphin.
Chevauché. Voilà. Un dauphin qui est chevauché.
Pour quelqu'un qui se.
Pardon?
On l'a pas vu dans la tenture des honneurs.
Pour ceux qui vont sous d'autres cieux, à d'autres ateliers, effectivement.
Ça s'appelle Arion.
Arion, bravo. Bravo. Eh bien, vous allez nous raconter l'histoire d'Arion.
Ah ben non, je ne me rappelle plus.
Ah, moi, je suis.
Vas-y, toi.
Oh, ben non, je ne me rappelle plus. Alors les autres vont nous dire. Vous avez trouvé le nom, c'est déjà pas mal. Mais vous allez nous dire, enfin, rien qu'en regardant, je crois qu'on comprend ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va essayer de voir ce qu'il est. Vous savez, parce que dans un autre atelier, on en a parlé, mais les autres, allons-y. Il y a une tempête. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tempête? Il y a un naufrage.
Il y a des rescapés.
Et il y a des rescapés. Des rescapés?
Surtout un.
Oui,
bah, les autres aussi, pour l'instant.
Mais ils ont aussi.
Pardon? Donc tout ça, c'est des rescapés du naufrage.
Non, ils ont dit que
c'était des lieux.
Alors, Il y a des rescapés ou un rescapé? Ah, il y a un rescapé. Et alors les autres, c'est quoi?
Des
Néréides. Les Néréides, c'est les femmes à...
Des queues de
poisson. Queues de poisson, on va dire. C'est l'ordre de sirènes, sauf qu'elles ont deux jambes, et chaque jambe est ternée par... Donc c'est des sirènes, pas tout à fait sirènes. Enfin voilà. Comment est-ce qu'on appelle les Néréides masculines?
Les Néréides masculines...
Non.
Oh.
Néréide, c'est ces femmes dont les deux jambes se terminent par des queues de poisson. Vous en avez une belle là. Hein. Voilà, il y a une jambe qui se termine par des queues de poisson. Mais ces personnages masculins qui ont également des jambes se terminent par des queues de poisson. Ce n'est pas le pas des Néréides, c'est les femmes qui sont des Néréides. Les messieurs Néréides,
c'est
comment?
Pardon?
Triton. Un triton de région, les Néréides, c'est féminin. Bien. Donc, effectivement, ces personnages voyés autour ne sont pas des rescapés, sont des Néréides et des Tritons qui viennent accompagner ce rescapé-là.
Pour le sauver.
Voilà, pour le sauver. Mais qu'est-ce qu'il sauve surtout? C'est le dauphin. Hein. Décidément, les animaux peuvent avoir un rôle très important. D'ailleurs, il le sauve tellement que le personnage, qu'est-ce qu'il fait?
Il joue de la lyre
et chante. Ouais. À vrai dire, ce personnage qui s'appelle Arion, c'est quel genre de personnage?
Un poète.
Pardon?
Un poète.
C'est un poète, voilà. Un poète, et comme tous les poètes de l'Antiquité, car c'est là une légende antique, hein, il clame en chantant et en s'accompagnant de la lyre. Et vous voyez que là, il a beau être rescapé d'un naufrage, bah, il continue, n'est-ce pas, de chanter, etc.
Il a charmé les...
Voilà, il est dans son art. Il a charmé qui?
Les sirènes.
Alors, peut-être une sorte de sirène, vraisemblablement. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le dauphin l'a récupéré. De toute façon, si un poète manque de se noyer, les dauphins sont là plus que les humains pour le garder. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Pour le sauver.
Et ça finit comment?
Ça finit très bien. Ça avait commencé très mal. Hein. L'histoire nous dit que Arion était donc un poète. Poète, donc un musicien très célèbre, tellement célèbre qu'en gros il avait fait fortune. Il était en Italie, mais il décide de revenir en Grèce. Et avec l'argent qu'il a amassé dans sa tournée italienne. Mais dans le bateau qu'il amène d'Italie en Grèce, avec donc l'argent qui est sien, les membres de l'équipage vont se dire « Oh là là, on a là quelqu'un qui a pas mal d'argent ». Et ce poète qui a l'air un peu d'être la tête en l'air, hein, on va le flanquer par-dessus bord pour pouvoir lui prendre son argent. Et c'est ce qu'ils font. Ils jettent Arion par-dessus bord pour pouvoir s'approprier l'argent qui est le sien. Mais double scénario. Arion va être récupéré par un dauphin qui va le sauver et l'emmener sur la terre ferme. Donc Arion va être sauvé. Mais les marins qui avaient souhaité éliminer Arion et s'emparer de son trésor, vont être pris dans une tempête et vont tous couler et mourir. C'est ce que vous voyez là. C'est donc, si vous voulez, une scène qui évoque bah, le fait que une mauvaise intention n'est jamais suivie de bons effets. Quoi. D'accord ? Voilà. Donc c'est pareil, ce thème d'Arion, on le verrait beaucoup. Hein. On le voit, on a parlé sous d'autres cieux. On le voit dès la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle, on le voit peut-être même avant, je ne vais pas vérifier. On le voit après, cette œuvre qui, quoi, quand? Qui ou quand?
Vu la forme du bateau, oui,
17e. 17e ou
18. 17-18.
Ah, en France.
France. France, 17e, et qui? Un peintre ultra célèbre. Une peinture typiquissime de ce peintre.
Boucher.
Donc on est plutôt
18e.
Si c'est Boucher, on est plutôt 18e. Hein, parce que Boucher au 17e. Alors voyons. Eh bien, c'est François Boucher. C'est l'œuvre de François Boucher, milieu du 18e. Voilà. Typiquissime. Les Néréides. Et les tritons, notamment, sont vraiment du boucher pur porc, si vous me permettez l'expression. Mais on continue.
C'est mignon, ça.
Tout ce que je vous montre est toujours très mignon.
Il n'y a pas toujours. Il y a beaucoup d'animaux.
Oui, il y a du monde.
C'est le paradis terrestre.
Oh, ben ça, c'est le paradis terrestre, non?
Ah, c'est vrai qu'on aurait envie d'y voir le paradis terrestre.
Bon, on n'a pas Adam et Ève, mais tant pis.
Pardon?
On n'a pas Adam et Ève.
Ils sont cachés.
Si, on... les deux chevaux, c'est ce que tu as envie.
Ah non, Adam et Ève métamorphosés. C'est bien d'avoir de l'imagination, remarquez. Hein.
Mais, ouais, il y a des personnages là-bas au fond, sous, dans la tour.
Ah.
Ça représente plutôt la tour de Babel.
Ah oui,
on pense plutôt à la tour de Babel.
Et puis dans, oui, dans l'arrondi, la tour.
Oui, il y a des personnages.
C'est le regroupement d'animaux pour le. Pendant le.
Ah, ce serait possible. Là, vous avez émis des idées intéressantes. Vous avez émis l'idée du paradis terrestre. Vous avez émis l'idée de l'arche de Noé, le regroupement des animaux avant leur entrée dans l'arche. Bonne idée aussi. Alors, le problème, uniquement, c'est que le paradis terrestre, il n'y a pas Noé. Donc, ça limite un peu. Enfin, ça veut le paradis terrestre sans eux, hein. L'arche de Noé, moi je vois pas trop d'arche, mais bon, il est peut-être encore construit, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres indices qui pourraient vous en dire plus? Et là aussi, il s'agit d'un thème super représenté dans la peinture ancienne. Avec toujours beaucoup d'animaux, parce que c'est vraiment le thème.
Il y a un dromadaire.
Effectivement. Ou un chameau d'ailleurs.
Non, il n'y a qu'une bosse.
Oui, mais je ne sais pas si le reste n'est pas caché par un. Non, il n'y a qu'une bosse. Oui, effectivement. Donc, non, c'est effectivement un grand-mère.
Il y a même un lama.
Il y a un cerf, des chevaux.
Il y a lion et lionne. Enfin, il y a tout le monde.
Il y a plein d'oiseaux.
Il y a un détail qui devrait vraiment emporter la compréhension du thème.
Ils sont sur un arc.
Il y a une espèce d'arc, effectivement. Il y a un arc là. Bon, il y a pas mal de constructions.
Il y a la tour.
Et il y a la tour, effectivement.
Oui, ça fait comme une tour, parce que la lumière va vers elle. Tout va vers la tour. Les oiseaux vont...
Alors, c'est vrai que ça fait penser à la tour de Babel, mais c'est pas la tour de Babel.
Il y a la coexistence de lions et d'autres animaux.
Oui, ah oui, visiblement, c'est la concorde. C'est ce qui vous a fait penser au paradis terrestre.
Oui.
Ou même à l'entrée dans l'arc. Hein, dans l'arche. Donc, c'est vrai que tout ça est bien, sauf qu'encore une fois, l'arche de Noé, oui, mais où est l'arche? Paradis terrestre, oui, mais où sont Adam et Ève? C'est des possibilités, mais il y a peut-être une autre possibilité qu'un détail doit vous faire trouver.
Ah,
c'est bien
le détail qu'il faut regarder.
Ah, ça, c'est à vous de le trouver. Vous savez, hein, de là, il faut tout regarder.
Hein. La lumière
dans le ciel. Oui. Oh, bah oui, il y a de la lumière dans le ciel.
Il y a quelque chose qui vient.
Il y a des canards sauvages qui passent.
Oui, il y a des canards. Tout le monde est...
Ouais, ça se passe au bord de l'eau.
Oui.
Il y a une lumière là.
Oui, il y a de l'eau au premier plan, effectivement.
Il y a une lumière,
c'est
des
alpères,
c'est
la tour qui a une importance.
Pas la tour elle-même.
Il y a un petit personnage
au niveau de la tour.
C'est
ça qu'il faut regarder.
Il y a un personnage.
Parce que il y a des animaux, mais il y a un personnage. Peut-être qu'en regardant ce personnage, on va avoir une idée.
Mais je ne vois
pas
plusieurs. Il est où? Il y a plusieurs personnages.
Dans la grande arche de la tour.
Oui, mi-hauteur. Bah oui, mais il y en a en noir.
Alors, il y a là, c'est ça que vous dites. Ben, ça, à vrai dire, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une ouverture dans cette niche. Et moi, il y a un endroit où je vois...
C'est la niche de dessous, il y a des personnages.
Ben voilà, là, il y a un personnage.
Il y en a deux autres à côté, non?
Non, à côté, c'est des animaux.
C'est des animaux.
Tout ça, c'est des... là, c'est des animaux, des animaux, des animaux. Il y a un personnage ici. Un, on n'a pas cinq ans.
Il n'y a pas celui qui a joué du studio pour
Orphée.
Ah.
Orphée.
Eh ben, alors...
C'est Orphée.
C'est Orphée.
Alors, c'est pas du flutio pour les années au sud, mais vous avez ouvert la porte. C'est-à-dire que c'est effectivement la représentation d'Orphée. Orphée, on vient de parler d'Arion. Il y a un autre grand poète antique, c'est Orphée. Et Orphée chantait tellement bien que les animaux étaient charmés de l'écouter. Ce que vous avez là, c'est la représentation d'Orphée charmant les animaux. Orphée, il est là. Ah, il est tout petit, hein. Il est là. Mais on voit sa lyre. On la voit, la lyre. Et il est en train de jouer de la musique et les animaux s'agrègent autour de lui. C'est Orphée charmant les animaux. Alors évidemment, c'est un prétexte pour représenter plein d'animaux, hein. Mais n'empêche que c'est ce détail-là qui dit la scène. Or ça, c'est une scène que vous allez voir représentée des milliers de fois. Hein. Orphée charmant les animaux, il y en a plein. Alors j'en ai pris un qui est un peu plus vicieux que les autres, je vous l'accorde. Mais bon, voilà.
Vous êtes
venu
le
chercher. Ah oui. Voilà. Alors là, question rituelle, on est quand, on est où ?
17e. Il y a un Hollandais qui fait des trucs comme ça.
Oui, exact. Exact. C'est lui. C'est lui.
Patinir ou un truc comme ça.
Alors, c'est pas Patinir.
Ah oui.
C'est Savré. Alors, il est à cheval sur la Flandre et la Hollande. Hein, mais enfin bon, c'est. Voilà. C'est Roland de Savry. Savry, effectivement, un spécialiste de ce genre de choses. Voilà. Notamment de Orphée charmant les animaux, il en a fait toute une série, en voilà. Et on est au 17e. Bien. Oui.
Ah, le coq, Saint-Pierre.
Bravo. Très bien. Voilà. Alors, vous me rappelez l'épisode?
Oui.
Vous me rappelez l'épisode?
Donc, quand ils sont au jardin des Oliviers, que Jésus est arrêté, Pierre veut le défendre et Jésus lui dit non. Oh, mais maître, il faut, etc. Et il lui dit, bah, de toute façon, avant que le coq ne chante trois fois, tu m'auras renié trois fois.
Oui.
C'est pas possible. Et effectivement, il suit au loin Jésus qui part avec, alors qu'il est arrêté. Et il essaye d'écouter un peu ce qui se passe. Et là, il y a une servante qui le voit et qui me dit, donc, tu serais pas, toi, tu n'aurais pas été avec le Nazaréen, tout ça. Il dit non, non. Et donc, trois fois de suite, il dit non. Et à ce moment-là, la troisième fois, le coq chante et Pierre s'en va, malheureusement.
C'est ça. Absolument. Vous avez bien résumé la scène. Hein. C'est la scène du reniement de Saint-Pierre. C'est-à-dire qu'à trois reprises, Saint-Pierre renie le fait qu'il connaît le Christ, alors que la servante et les soldats autour de lui le soupçonnent, n'est-ce pas, d'être un ami du Nazaréen. Et effectivement, il se passe ce que Jésus avait dit au moment de la station, c'est qu'à trois reprises, Saint-Pierre a renié le Christ, et à trois reprises, le coq a renié le fait qu'il chanté pour marquer ce reniement. Et là, donc, vous voyez à l'arrière, effectivement, Saint-Pierre, dans le camp de garde où midi évangile est venu se réchauffer, effectivement, hein, avec la servante qui lui dit, mais non, c'est toi l'ami du Christ, là, c'est toi. Il dit, non, non, et cocorico, etc. Et le coq est juste au-dessus, effectivement. Hein. Voilà. Alors le coq, il est là, réduit à la portion congrue, c'est un peu l'inverse d'avant. Hein. Avant, en fait, charmant les animaux, on voyait un Orphée grand comme ça, et plein d'animaux. Là, le coq, qui est l'élément moteur de l'affaire, il est relégué un peu dans un coin, mais il est capital, parce que c'est lui qui explique la scène. Sans le coq, tac, ça n'existe pas. Hein. Alors ça, c'est pareil. Hein. L'histoire du reniement de Saint-Pierre, vous l'avez représentée, elle est une centaine de fois. Hein. Pensez au tableau de Georges de la Tour, par exemple. Il y en a plein d'autres. Alors là, ce tableau, donc, c'est qui, c'est quoi, c'est quand?
Le Nord.
17e. L'idée d'un nom. Alors, je vous en rebelle les oreilles de cet artiste. Hein. On a déjà vu plein d'œuvres de lui. Hein. À plusieurs reprises, on se cycle. Non. Oh, faites-moi plaisir. Bon, allez.
David.
Hein.
C'en est un qu'on devrait retenir.
Ah oui, Tellier, il faut le retenir. Hein. C'est un ouais, le grand pain de flagon du 17e. Hein, hein. David Tellier, le reniement de Saint-Pierre. Hein. Bien.
Ouais. Ah bah, nous
dire voilà
dans le ah, puis là, il y a Adam
et Ève. Il y a Adam et
Ève. Ah oui, ça, c'est
l'Éden.
Alors là, c'est quoi? Voilà, c'est l'Éden. Là, c'est le paradis terrestre. On peut le confondre avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Seulement, faut pas. Parce qu'il faut bien dans les détails. Là, effectivement, vous voyez dans le fond Adam et Ève. Ils sont là. Donc là, on n'est plus dans Orphée charmant les animaux, on est dans le paradis terrestre. Alors, les animaux ont la même, vous voyez, vous avez le même poncif de la lionne et du lion, hein, que ce qu'on a vu tout à l'heure, à côté d'animaux qui pourraient être engloutis par eux. Hein. Mais c'est le paradis terrestre, donc tout va bien. C'est un peu comme quand Orphée charme les animaux, tout va bien. Donc, évidemment, on peut confondre les deux, c'est pour ça que je vous les ai mis, comme l'autre. Mais c'est pas le même sujet, en fait. On voit à quel point cette espèce de drame animalier hein, est important jusque dans les détails. Alors là aussi, question rituelle, qui, où, quand
18
de la Renaissance.
18 à
Renaissance.
Renaissance. Oui, paysage accès lointain, là.
17,
ouais.
17, oui, oui, non. 17.
Ah, alors on tranche entre les deux. 17, alors. Il y a 17, il y a 18. Bon. Alors, 17, 18, dirons-nous. Hein? Est-ce que vous avez une idée d'un lieu et d'un peintre? Un peintre super connu, connaissez tous. Et un territoire, c'est fait où ça?
En France.
France? Et le peintre, peut-être?
Spécialiste des animaux?
Ben, a priori, il y a des chances.
Oudry.
Donc, Oudry, 18e. Oudry, 17e. Non. Je sens des convictions un peu moyennes là, dans l'assistance. Non, je me trompe. Alors, le peintre célébrissime. C'est Bruegel. C'est pas tout à fait au pied des portes. Hein. Et on est effectivement plutôt à la Renaissance finissante. Hein. On est au début du XVIIe, on est en 1615. Donc c'est effectivement plutôt un tableau, alors on va dire la Renaissance tardive ou le classicisme précoce, mais c'est plutôt ça. Hein, Yann Bruegel est un des fils de Pierre Bruegel l'Ancien, vous savez, Pierre Bruegel l'Ancien, je vous sais qu'il fait des kermesses. Et... Il y a eu deux enfants, hein, Yann Bruegel, qu'on appelle Bruegel de velours, qui est lui, hein, qui fait des scènes très léchées, impeccables, etc. Et puis Peter Bruegel, qui a le même prénom que son père, qui lui a vraiment continué le travail de son père. Les Bruegel sont compliqués, c'est toute une dynastie, avec ça. Voilà. Mais Yann Bruegel, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de tableaux comme ça, des tableaux hyper impeccables, comme ça, très très léchés. Vraiment.
Le dénicheur, là, c'était de lui.
Le dénicheur, c'était de Peter Bruegel, l'ancien. Mais Peter Bruegel, le jeune, le frère de Yann Bruegel, en a fait des versions aussi. Parce que Peter, le jeune, a beaucoup copié les œuvres de Peter, l'ancien, son père. Voilà. Et Yann Bruegel, il est très différent. C'est un type vraiment qui, lui, peaufine les détails. Vous voyez, c'est un tableau pas mirant, c'est grand comme ça. Hein. Ah oui, c'est pas des grands tableaux. Hein. Il y a des tableaux comme ça. Hein. Ouais, c'est étonnant. Hein. Alors, on continue, je vais la lancer. Ah ben, je vous laisse regarder. Ah, il n'y a pas d'animal. Je vous aurais fait ce coup-là. Pardon ? Ah, dans les bras des dames. Il y a un truc, là. Hein.
Ah, oui. Mais. C'est un caméléon, on ne voit pas.
C'est peut-être dans les mains des dames, non ?
Bah, dans les mains des dames, il y a... Qu'est-ce qu'il y a dans les mains des dames? Là, il n'y a rien. Là, il tient sa robe, sa jupe, etc. Là, ils se tiennent toutes les deux. Vous savez, c'est des copines. Hein. Hein donc, puis voilà. Puis derrière, il y a un petit page qui est en train de tenir l'ombrelle. Non, je ne vois pas trop quoi que ce soit dans les mains des dames.
À sa gauche.
Qu'est-ce que c'est?
C'est une coccinelle, mais on ne peut pas l'avoir.
Si c'est un caméléon, on ne voit pas.
En tout cas, ils sont étonnés. Hein.
Ah oui. Qu'est-ce qui est étonné?
Les deux messieurs
sont étonnés de quoi?
De voir
les deux jeunes filles.
Ouais.
Ah oui. Et pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas de maison.
Elles viennent chercher leur chien qui est caché.
Ah, donc il y aurait un animal, mais il est caché.
Oui, et puis elles viennent le chercher.
Ou elles ont été transformées.
Ah, elles ont été transformées.
Ouais.
Ça, c'est deux pistes intéressantes. Il y a peut-être un animal, mais il est caché, donc on ne le voit pas. Ou alors, les deux jeunes filles, ou les deux messieurs, je ne sais pas, ont été transformés. C'était des animaux, c'est devenu des humains.
À droite, c'est un ecclésiastique.
À droite, on a quelqu'un qui ressemble à un moine, ou à un ermite, ou effectivement, oui. En tout cas, un religieux, oui.
Il dirait qu'il retient le personnage.
Oui, on a l'impression qu'il retient le garçon. Ouais.
Qui est attiré par les sirènes.
Qui a l'air d'être attiré par les sirènes des jeunes filles. Qui sont charmants, c'est de quoi être attiré.
Il est attiré et un peu épouvanté.
Attiré et épouvanté, je suis d'accord avec vous.
Oui, j'ai surpris.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe?
Des animaux qui sont transformés en jeunes filles.
Ah, c'est peut-être ça, effectivement. Peut-être des animaux transformés en jeunes filles. Pardon?
Des grenouilles.
Ah, vous lisez trop les contes de Perrault. Alors ça, c'est une piste intéressante, peut-être, hein, que quelqu'un avait évoqué avant, mais... Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer?
Non.
Les contes de La Fontaine vous disent quelque chose?
Oui,
c'est
un petit...
Il y en a tellement.
Ah, il y a un petit côté oriental à l'arrière, c'est vrai.
Donc ça fait un peu...
Un peu Conte des Mille et Une. Ben, c'est La Fontaine qui a écrit ce conte-là. Mais La Fontaine avait les inspirations larges.
Des hommes.
Alors, ça pourrait... Pour les femmes, il s'inspirait des hommes, évidemment. Là, pour ce conte-là, et pour les contes en général, j'avoue que je ne sais pas quelle est son inspiration éventuelle.
Le conte est bon.
Est-ce que vous connaissez l'épisode des oies de frère Philippe?
Non.
Épisode très souvent représenté en peinture, on voit un exemple. Et très souvent représenté en peinture. Je vous raconte l'histoire?
Ah oui, mais sans la bruit.
Il y avait un monsieur qui s'appelait Philippe, qui avait une épouse, qu'il aimait beaucoup, etc. Ils ont eu un enfant, un garçon. Tout allait très bien, le meilleur des mondes. Ils étaient beaux, amoureux l'un de l'autre. Ils avaient des moyens. Enfin bref, tout était fait. Puis un jour, la jeune épouse est décédée, laissant son mari et leur fils seuls. Le mari a été tellement effondré de la perte de son épouse qu'il a décidé de se reclure dans une forêt, à l'abri de tout le monde. Se disant, de toute façon, ça ne sert à rien de s'attacher aux humains, parce que, voilà, on est toujours, on a toujours un jour ou l'autre, voilà, des blessures, donc autant se mettre dans un bois, de ne voir personne, et puis voilà, comme ça, au moins, on ne voit pas d'humains. Et... En plus, ce personnage, au bout du compte, peut-être un peu, quand même, pour faire vite, hein, dérangé, décide vraiment de tomber sur le mysticisme absolu. Et bien sûr, il élève son fils dans ce sens. Et il incite son fils à ne voir personne. Le problème, c'est que c'est quand même compliqué de vivre dans une forêt sans avoir de rapport avec les êtres humains, parce que comment vivre? Donc le père régulièrement sortait quand même, habillé dans cette espèce d'habit d'ermite qu'on voit ici à droite. Vous avez compris, hein, le père s'est jeté à droite et son fils s'est jeté après. Pour aller chercher et quémander trois bouts de nourriture ou d'argent. Mais à chaque fois, il s'employait bien à fermer son fils dans la cabane qui s'était dans les bois pour que lui n'en sorte pas, il ne voit rien. Et puis, le feu, non, grand, le fils un jour dit à son père, écoute, tu vieillis, il va falloir que tu m'emmènes un jour avec toi parce que bientôt, il ne pourra plus, toi, bouger, et on ne va pas nous crever ici dans cette baraque. Quoi. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il faut que tu m'emmènes à la ville, là où tu vas, pour que je puisse, moi, un jour, prendre le relais. Quoi. Alors, le père n'a pas très envie, mais enfin, il décide finalement d'emmener quand même son fils avec lui,
Et puis, arrivant dans la ville, il croise des jeunes filles qui revenaient en plus d'une noce, alors qu'ils étaient un peu bien habillées. Et évidemment, le garçon, oh, il tombe dans les filles. Il n'a jamais vu qui que ce soit d'autre, si vous voulez. Et notamment, j'avais vu une fille, quoi. Il dit, oh là là, oh, qu'est-ce que c'est bien, tout. Enfin, il trouve que les filles, hein, elles sont superbes, quoi. Bien. Alors, son père voit bien que le fils est un peu troublé. Mais voilà, bon. Alors il dit à son père, mais c'est quoi là ce que je vois là? Alors le père, qui ne veut pas lui dire ces jeunes filles, ah, c'est équivalent de nous, mais d'un genre différent, il dit à son fils, ce sont des oies. Ce sont des oies. Ah ouais, c'est des oies, ben c'est chouette les oies. Hein.
Des oies.
Et puis bon, il se dépêche de rentrer dans la forêt, etc. Et alors le fils va avoir après que vraiment qu'une idée en tête. Il pense à son, voilà, même d'adopter des oies. Il dit, ben, on voit peut-être bien avoir des oies aussi. Il y a des oies, j'en ai vu là. C'est ça qu'on appelle les oies de frère Philippe. Parce que frère Philippe, qui était donc venu quasiment un ermite, un frère, si vous voulez, le voit avec son fils, il voit des oies, enfin, des femmes qui sont des oies. Et donc c'est l'épisode évidemment qui montre, j'allais dire, l'espèce d'instinct humain. Parce que le père, voyons au bout d'un moment que ben, son fils, avec lui, il dit en fait c'est de voir des oies, il voit bien que finalement, l'idée d'avoir reclus ben, ne sert absolument à rien, que la nature revient au galop, que ce n'est pas la peine de d'être contre. Quoi. Voilà. Donc c'est l'épisode des oies de frère Philippe. Alors vous avez raison, hein, je viens de montrer une heure où il n'y a pas d'animaux, mais il y en a quand même. Parce que les deux filles, là, c'est des oies.
Voilà. C'est du rien.
Voilà. Alors ça, vous le verrez très souvent représenté aussi. Cet épisode où on voit un jeune garçon avec un ermite qui est un peu stupéfait devant des oies, entre guillemets. Voilà. Donc vous voyez quelquefois les animaux se logent là où on les voit pas. Et l'épisode des oies de frère Philippe est vraiment un épisode important. Alors là, j'aurais dû vous le faire deviner. Hein. C'est bien Nicolas Lancret, vous savez. C'est qui Lancret? En gros, vous le situez comment, quoi? Oui, très bien. Il s'est pas né en 1690 à Paris. Il me semble. Hein. Et vous le situez dans quelle mouvance, ce Lancret-là? On l'a vu. L'an passé, je crois.
C'est loin.
Ah, c'est loin. Lancret, vous le mettez dans quel. Voilà, c'est ça. C'est un émule de Watteau, hein, de Watteau, si vous préférez. Hein. Watteau est vraiment quelqu'un qui a vraiment révolutionné la peinture en France à fin 17, début du 18e. Hein. Lancret, comme Pater, par exemple, hein, sont deux des émules de Watteau. On en a ici un très bel exemple. Bien, super.
Il y a des personnages qui sont dans le fond, ils sont au village.
Là, ils sont par pair.
Oui,
ils sont
par pair.
Il y a des personnages au fond, là-bas.
Oui. Il y a des personnages au fond, ouf, et il y a plein d'animaux. On pourrait se dire par des terrestres, on pourrait se dire Orphée, Charmant, les animaux.
Non, ça c'est plutôt Noé parce qu'ils sont en couple.
Ils sont les animaux.
Ils sont les animaux. Pardon.
Il y a le bateau, on voit le couple.
Eh ben oui.
C'est Noé.
Ah oui, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'arche de Noé. Alors voilà, enfin. Les animaux rassemblés pour l'arche de Noé. Il est là, il n'est pas très visible. Hein. Je ne vous ai pas choisi un truc où vous voyez le bateau pouf en plein milieu sur la table. Voilà, il faut décidément toujours regarder. Vous avez vu le bateau, effectivement, c'est lui. C'est effectivement les animaux rassemblés pour aller dans l'arche, par couple, etc. Très bien. Là aussi, on est où? Qui? Quand? Il veut vous dire que c'est un thème, hein, là aussi, énormément représenté. C'est un de ces leitmotifs, comme tous ceux que je vous montre depuis le départ, hein, que l'on voit régulièrement dans l'histoire de l'art, entre le Moyen-Âge et le 19e siècle. C'est un leitmotiv permanent. C'est de ces thèmes qui, en permanence, font intervenir les animaux et sont représentés. Oui, donc vous verrez ça quand 18e
17.
17, vous 17, 18. Et c'est où?
Encore un peu.
Au nord.
Le nord.
À cause des vaches.
Le nord à cause des vaches.
Bon. Pour représenter cette race, ces races nord en France, quoi.
Eh bien, c'est nord. Une œuvre de Paul de Vos, un artiste évidemment du 17e, flamand. D'accord ? Bien.
On
se retrouve à
Rome.
À Rome, donc voilà. Il y a un petit îles, il y a quoi ?
Un marché aux animaux.
Il y a un marché aux animaux.
Oui.
Vous le voyez ?
Oui, oui.
Au centre, là.
Oui, oui. Au
centre. On est où à Rome, là ?
Ce forum.
Sur le forum. Ah, le forum ?
Les bœufs.
Alors, il y a à Rome, effectivement, un forum, parce qu'il y a plusieurs forums à Rome, hein, plusieurs forums à la KS. Il y a effectivement celui qu'on appelle le forum romain, qui est vraiment le forum des forums. Mais il y a aussi le forum de Trajan, il y a le forum d'Auguste, il y a le forum Boarium, le forum des bœufs. Hein.
Oui, c'est ça.
Voilà, qui n'est pas très loin du Tibre, que l'on peut localiser encore aujourd'hui, parce qu'il y a sur le forum Boarium un temple rond.
Oui.
Mais là, est-ce que c'est le forum Boarium ?
Non, non.
Il y a le Colisée au fond.
Oui, voilà. Oui. Donc c'est le forum, forum, et qu'on fond le Colisée. Ouais. Ça, ok. Mm-hmm. Et pourquoi on montre ça ?
Il y a des animaux.
Parce qu'il y a des animaux.
Il y a une bestiole.
Et donc, quel est le lien, si on dit, entre le forum et ces animaux ?
Bah, il faut de la
place. Le temple.
Les temples.
Oh, si c'est un marché, c'est un marché. Donc c'est Rome qui est devenu ordinaire, qui a perdu sa grandeur romaine.
Exact. C'est-à-dire qu'on est là, le forum d'Antiquité, c'est quand même le centre religieux de Rome et de l'Empire romain.
Oui, mais après, tout a été dans la décrépitude de Rome.
Absolument. C'est-à-dire que autant d'Antiquité, le forum romain, c'est le centre de l'Empire romain, donc c'est pas rien. Il y a là quelques-uns des temples fondamentaux de la culture romaine. Et effectivement, avec les années et surtout les siècles qui ont passé, ce lieu tellement important va devenir un champ de ruines, un peu comme les autres, tellement d'ailleurs qu'on y élève quoi ? Des animaux, et quoi comme animaux ?
Des vaches.
Ce qui veut dire qu'on va appeler le forum. Non, pas le forum. On va l'appeler comment ?
Le
forum. En quelque sorte, oui. On va l'appeler le Campo Vacchino. Le champ des vaches. Donc au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, jusqu'à ce que, et même peut-être encore au début du XXe, avant que le forum fasse l'objet de dégagement, de fouilles archéologiques, etc., on va appeler le forum, non pas le forum, mais le Campo Vacchino, le lieu des vaches. Parce qu'effectivement, on y élevait des vaches, et puis on y vendait les vaches, c'est devenu le dieu des vaches, quoi. Voilà, comme vous le voyez là. Alors là aussi, vous avez une idée de quand ça a été fait, par qui
18e.
Ouais.
Italie,
18e, ouais. Bon, on va voir. Hein. En fait, c'est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Van Velt, qui est un artiste du Nord, mais qui est beaucoup passé par l'Italie, mais aussi par la France. Il est mort à Paris. Et donc là, ça représente le compo. On dit Vacchino ou Vacchino ?
Vacchino.
Dossier, c'est Vacchino.
Il
n'y a pas de H. Donc c'est Vacchino quand même. Hein. Dossier, c'est que, c'est pas tch. C'est une question que je pose. Parce que moi, je ne parle pas italien, j'aimerais bien.
J'aurais envie de dire Vacchino.
Donc, de C, c'est Ch. Vacchino. Donc, en gros, Vacchino.
S'il y avait un H, ça serait Vacchino.
Vacchino. Donc, là, c'est Vacchino. Donc, le champ des vaches, le Campo Vacchino.
Non, c'est le champ des vaccins.
Pardon, si. Le champ des vaccins. Alors là, c'est pareil, des Campo Bacchino, vous en verrez plein. Bah, vous avez, je crois, il y a quelque temps, une conférence sur Claude Joly, dit le Lorrain. Un de ses tableaux les plus célèbres, c'est le Campo Bacchino. Tableau du Louvre. Illustrissime tableau de Claude Joly. Voilà. Vous vous en rappelez, vous l'avez vu. Pardon ?
Saint-Dominique.
Bravo.
Oui. Ah oui, avec son chien et son passant chien.
Exact. Ouais. Hein ? Vous voyez Saint-Dominique avec effectivement son chien.
Qui tient un bâton enflammé.
Exact. Et pourquoi un bâton enflammé ?
Pourquoi un bâton enflammé ?
Et pas un os, comme tous les chiens.
Enflammer la foi dans le cœur des fidèles.
C'est ça, oui, c'est la flamme de la foi, quoi. Hein. Oui. Ça ne me dit que c'est pas, oui, oh, je crois en Dieu, ok, très bien, c'est fou. Oui, il est engagé. Donc c'est la foi qui est une flamme qui consume.
On n'avait pas appelé le chien de Dieu.
Exact. Voilà, on a été parlé déjà l'autre jour ici.
Ah oui, parce que dans Dominique, il y a Canis.
Voilà. Dominique veut dire Dominique, Seigneur, Dieu, Canis, chien de Dieu. Et l'étymologie du mot Dominique est ou serait, parce qu'il y a Dominicanis, chien de Dieu, c'est-à-dire les Dominicains se veulent comme les chiens de Dieu. Dominicanis, Seigneur, chien du Seigneur, chien de Dieu. Donc les Dominicains estiment être les chiens de Dieu, ils sont fidèles à Dieu et ardents, hein, comme un chien les vis-à-vis de son maître. Hein. D'où le fait que Saint Dominique, bien reconnaissable, hein, il y a toujours la cape noire sur la chasuble blanche. Hein. Saint-Dominique est toujours représenté qu'un chien portant, alors un chien parce qu'il est le chien de Dieu, lui-même, et qui tient un petit bâton enflammé, parce qu'évidemment, c'est la foi qui le consume, qui l'exalte. Ah, voilà une œuvre d'un peintre, alors vous connaissez, parce qu'il y a trois œuvres de lui, énormes au musée de Chalon. Alors là, si vous ne connaissez pas le musée de Chalon, il y a du souci à se faire. Hein. Vous avez tous le Chalon, j'espère, une fois par semaine. Vous connaissez donc parfaitement les collections du Chalon. Et vous connaissez le plus grand tableau des collections du musée de Chalon, qui est dû à cet artiste. Qui est. Non.
Bah,
il y
en a fort.
Eh oui. Non plus.
C'est pas lui.
Un artiste d'où, à votre avis ?
Français.
Non.
Espagnol.
Italien. Luca Giordano. Vous avez au musée de Rome un tableau qui semble le triomphe d'Amphitrite. Un énorme tableau qui est dans la salle de peinture. Très grand tableau. Eh bien, qui est de Luca Giordano ? Un chef-d'œuvre de Giordano, qui est là. Un chef-d'œuvre. Hein. Luca Giordano, c'est un artiste napolitain du 17-18e siècle. Un cheval sur les deux. Et qui a été hyper productif. Et il se trouve qu'à Chalon, il y a trois œuvres de lui, enfin notamment le Grand Triomphe de Vénus, c'est un tableau très important de lui. Alors Giordano a peint énormément, hein. Il peignait comme il parlait, ce gars-là, fou. Puis il avait un atelier, son... enfin bref. Donc voilà une œuvre de Luca Giordano. Il y a une expression sur lui, il n'y a pas longtemps au Petit Palais à Paris. Ben voilà une œuvre typique de Giordano.
Voilà, il y a des serpents.
Des serpents.
Ouais, c'est le bâton de Moïse.
Pardon ?
C'est le bâton de son frère Aaron, le frère de Moïse.
Alors, effectivement, vous avez. Vous les voyez. Alors, vous avez à gauche un bâton. Hein. Effectivement, ça fait penser au bâton de Moïse, au bâton de Aaron, la verge d'Aaron, vous savez.
Bon. Il y a partout des serpents.
Il y a un serpent, effectivement. Il y a plein de serpents.
Je fais plein de serpents. Oh, c'est une scène biblique.
Ah, ouais. Laquelle ?
Les sept plaies, non ?
Non.
Non.
Mais c'est vrai que, bon, on est un peu dans cette ambiance.
Il faut regarder le serpent, mais c'est un serpent de bronze.
Oui.
Voilà, oui.
Alors, pas tout à fait de bronze, mais pas loin. C'est la manière ancienne de dire. Pardon ?
D'airain.
C'est la manière ancienne, en fait, de dire le bronze. Vous avez raison. Donc, c'est effectivement le. Pardon ?
Ce sont des serpents vivants, ce n'est pas un serpent métallique.
Alors, il y a plein de serpents vivants partout, mais celui-là, lui, serait plus métallique. C'est effectivement l'épisode de Moïse et du serpent d'airain. Vous connaissez l'histoire ? Donc, il y a une vie, une histoire vie. Là aussi, hyper représentée. Vous en verrez des centaines de représentations. L'histoire vie faisait que Moïse, il a sorti les Hébreux de l'Égypte, et puis il les attrapait dans le désert pendant des années et des années.
40
ans. Voilà, 40 ans. Et évidemment, les Hébreux, il y a des moments, avaient des coups de mou, si j'ose dire. Ils commençaient à trouver que le temps était un peu long. On leur promettait la terre promise, elle n'arrivait jamais. Et moi, ils disaient, on est en train de nous mener en bateau, là. Hein. Et un jour, vraiment, ils étaient en plein doute, et ils commençaient à se dire, on va se révolter contre Moïse, parce qu'il est bien gentil, enfin là, ça va pas. Dieu, pour essayer de un peu remettre les choses dans l'ordre, a fait pleuvoir sur le groupe, si vous voulez, des Hébreux, une pluie de serpents, serpents venimeux. Parce qu'évidemment, c'est un peu, les serpents piquaient les gens, et les gens mouraient. Et Dieu, après, a demandé à Moïse, et effectivement, vous voyez à gauche, Moïse, et derrière Aaron. Moïse, vous le reconnaissez à quelque chose.
Assez
grande. Hein. Vous savez que Moïse est souvent représenté, pour une raison d'ailleurs de mauvaise interprétation d'un texte. Il est très souvent représenté avec des cornes sur la tête. Hein. Des cornes qui éclairent, plus ou moins. Et donc Moïse tient une espèce de bâton. Ça, c'est Yahvé, Dieu, qui lui a demandé de mettre un bâton dans le sol, et de mettre au-dessus de son bâton un serpent d'airain, un serpent de bronze. Et il avait dit à Moïse, ben, ceux qui sont piqués par les serpents et qui regarderont ce serpent d'airain seront sauvés. Vous voyez ? Donc, on est piqué par le serpent, on regarde le serpent d'airain, et vous en voyez là, qui regarde le serpent et qui l'invoque. Hein. Regardez le jeune homme qui est devant le serpent, là. Il a la tête qui dégouline de sang, il a été piqué hein, par ce serpent qui est autour de lui, il regarde le serpent d'airain, il va être sauvé. Vous voyez bien là, évidemment, une métaphore par rapport au Nouveau Testament. C'est que l'Ancien Testament, Moïse en fait partie, hein, c'est en gros une répétition symbolique du Nouveau Testament. Il y a en permanence entre l'Ancien et le Nouveau des tas d'allers-retours. Hein. Et c'est le cas pour le serpent d'airain. Serpent d'airain, si vous voulez, lui qui est planté sur un bâton vertical, c'est un peu l'évocation imagée hein, du Christ en croix. Si vous croyez en Christ, vous êtes sauvés. Si vous regardez le serpent d'airain, comme Dieu vous l'a demandé, vous êtes sauvé. C'est la même idée. Vous voyez ce que je veux dire ? L'Ancien Testament, c'est la préparation du Nouveau. L'Ancien Testament, de manière poétique, allusive, symbolique, éclaire le Nouveau. Il y a toujours des passages entre les deux, tout le temps. Alors, ben, le serpent d'airain, c'est ça. C'est l'évocation du Christ en croix, mais après un serpent d'airain qui sauve le monde. Et c'est ce qui est présenté là. Vous verrez de très, très nombreuses représentations de cette scène. Alors là, on est où ? On est quand ? Je suis désolé, je pose toujours la même question. 17e, ok. Où ? Et qui ?
C'est l'époque de Rubens. Mais
absolument. Bien vu. C'est l'époque de Rubens. C'est pas Rubens, on n'est pas loin. Et c'est son époque.
Van Dyck.
Pardon ?
Van Dyck.
Van Dyck, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est Van Dyck. Donc il y a des moments, un moment où Van Dyck et un autre d'ailleurs, Jordaens,
oui,
sont tous deux dans l'atelier de Rubens. Et parce que Rubens a formé pas mal de gens, dont Van Dyck et Jordaens. Et Van Dyck et Jordaens vont travailler auprès de Rubens de manière rubénienne. Hein. Et là, c'est un tableau typique de Van Dyck qu'on pourrait confondre avec Rubens ou avec Jordaens. Ils travaillent tous les trois un peu ensemble. Et après, bravo. Très très bien. Bon. Mais c'est pas le tout.
Oui, ça continue.
Oui. Oui, on en a encore quelques-unes, je ne sais pas.
Il y a un chien, un poisson, c'est Toby.
Voilà, très bien, Toby. Vous pouvez nous rappeler l'histoire ?
Il va se bagarrer avec l'ange.
Pardon ?
Il va se bagarrer avec l'ange.
Ah !
Non,
vous ne confondez pas.
Non, son père est aveugle, il doit aller récupérer Dieu seul sait quoi, dans un poisson.
Alors, faut pas confondre avec Jacob et l'ange. Jacob, pendant une nuit, va lutter avec l'ange. Hein. Là, avec vous, vous avez raison, il y a Toby, dont le père s'appelle Toby aussi. Sauf que le fils est Théobéie, le père c'est Théobéité.
Bon. Oui, Toby.
Voilà. Le père de Toby est évidemment aveugle, et son fils Toby va partir pour aller chercher ce que Dieu lui a demandé de chercher pour guérir son père, c'est-à-dire, alors c'est le cœur, le foie et le fiel d'un poisson pour lui guérir les yeux. Et il va être accompagné par un ange, parce que c'est quand même mieux d'avoir un ange avec soi. C'est l'idée de l'ange gardien. Et là, vous voyez, effectivement, vous avez raison, le moment où Toby a pêché un poisson et où il l'ouvre pour récupérer le cœur, le fiel et le foie. Il va revenir et guérir son père. Je passe sur les 1000 aventures qui vont être ici.
Oui, mais le chien, qu'est-ce qu'il fait là ?
Et le chien apparaît à un moment, mais Dieu lui a dit qu'un chien viendrait. Et un chien va venir. Qui était là, on a un peu tout ce qu'on a vu quand on a parlé du chien, hein. La fidélité, la foi, voilà. Donc le chien, il vient, le chien est le garant de tout, et le chien c'est vraiment ce qui fédère, voilà. Vive des chiens.
Je sais qu'il y a quelques personnes qui pensent la même chose, c'est ça.
Voilà. Mais non.
J'en connais au moins deux.
Casper de Crayeur.
Caspar de Crayeur, qui est un artiste flamand du XVIIe siècle.
Contemporain de Louis.
Tiens. Oui, il y a un côté de la croix. Ah oui, il y a de la grenouille là. Il y a de la grenouille, regardez au premier plan.
Oui.
Il y a des vaches dans le fond.
Encore une grenouille.
Grenouille.
Elles sont disproportionnées. Par...
Ah, c'est des grosses grenouilles. Une belle bonne grosse grenouille bourguignonne, ça. Hein. Il se passe quoi ? Si vous êtes déjà allé à Versailles, vous savez ce qui se passe. Si on va à Versailles, on ne peut pas passer à côté. Ah, oui. Mais il vaut mieux aller dans les jardins pour voir ça.
C'est une fontaine.
Oui. Devant le château, vous avez le château, le jardin. Ben, quand vous êtes dans le château et vous avez le jardin, pouf, première fontaine, c'est ça. Eh oui.
Et où la fontaine ?
Alors là, c'est pas une fontaine. Hein. Ça, c'est la scène qui est représentée sur la fontaine de Versailles dont je parle. Quand vous êtes dans le château et donc que vous allez au parc, bah vous passez l'allée, par exemple, avant de descendre les escaliers, hein, vous avez à droite et à gauche deux bassins.
C'est pas ça, il y a des humains et des animaux.
Absolument. C'est des grenouilles. Absolument.
C'est la fontaine
de.
Non,
putain, j'ai. Eh oui.
L'atoll.
Exact. L'atoll. L'atoll qu'on peut aussi appeler l'étau. Oui. Qui c'est l'atoll ? Qui c'est l'étau ? C'est cette dame que vous voyez
c'est
là. Ça, c'est la tonne, qu'on peut appeler l'étau, il y a le nom grec, le nom romain.
Avec ses enfants.
Avec ses enfants.
C'est la maman.
C'est
la maman
de...
Des jumeaux.
Des jumeaux. Non, Castor et Pollux, c'est pas elle. C'est
un garçon et une fille.
Oui, un garçon et une fille.
Qui s'appelle...
Je vous mets sur la voie, c'est Soleil et la Lune.
Ah, oui, ben, Apollon et...
Et Diane. Et Diane. Diane et Apollon. Diane, c'est la Lune. Apollon, c'est le Soleil. Donc Phébus et Artémis. Et alors,
là, elle fait appel au père des enfants parce qu'elle est en danger.
Oui.
Et le père des enfants, c'est Zeus.
Oui.
Et Zeus transforme progressivement les personnages en animaux pour sauver...
En grenouille. Voilà. Absolument. C'est-à-dire que l'atone, elle a eu ses enfants de Jupiter, Zeus, hein, ouais. Qui effectivement a des enfants partout. Ouais. Il y en a une qui est Paravicère, l'épouse de Jupiter, qu'on a un peu marre. Hein. Mais au lieu de se venger sur son époux, enfin elle l'engueule régulièrement, mais enfin bon, elle se venge plutôt sur les conquêtes de son époux. Et là, ça va être le cas. Elle va se venger sur l'étau, la tonne. Elle va faire en sorte qu'elle fuit en permanence. Et un jour que la tonne se trouve en Lycie, des paysans lyciens, remontés par les rats contre elle, vont se moquer d'elle et surtout l'empêcher d'aller boire de l'eau pour elle et ses enfants. Et donc elle va, Leto va en faire appel à Jupiter en disant, écoute, moi j'en ai marre, il faut... Et Jupiter va réussir, à changer les paysans d'ici qui embêtaient Leto et ses enfants en grenouilles. Donc vous en avez certains qui sont déjà transformés, et d'autres ils sont en train de faire, vous voyez, celui-là, il commence à voir les membres qui vont se transformer. Et lui, il vient de grenouille aussi. Petit, et la fontaine de Versailles montre des personnages qui ont des têtes de grenouilles, ou des grenouilles qui ont encore des membres de personnages, voilà, en cours de transformation. Le bassin de la très belle fontaine, le bassin de la Tonne, c'est, en plus elle est dans l'Axe, hein, mais la Tonne, c'est la mer d'Apollon. Versailles, c'est Apollon, c'est le culte du soleil. Donc là, le premier bassin concerne la maison d'Apollon. Et puis dans le fond, il y a le bassin d'Apollon, c'est normal. Il y a une logique, les bassins de Versailles ne sont pas là comme ça. Hein. Ils sont là pour célébrer le dieu du soleil, c'est-à-dire le roi.
Des hommes grenouilles.
Oui, des hommes grenouilles. Oui, une fontaine magnifique, superbe, très très belle. Voilà, ça c'est dû à un artiste qui s'appelle Jouvenet, et c'est donc la Tonne et les paysans de Lycie. Encore 5 minutes.
Chardonnay.
Oui. Qu'est-ce que vous voyez donc là? C'est qui cette femme?
La Vierge.
La Vierge, avec qui?
Jésus.
Avec l'enfant Jésus et Jean-Baptiste. Parfait. C'est une œuvre, là vous la reconnaissez. Le Raphaël. Hein, ça c'est Raphaël.
Il y a un petit oiseau.
Un des chefs-d'œuvre. Et il y a un petit oiseau qui est effectivement.
Le chardonneret.
Un chardonneret. Pourquoi chardonneret?
C'est le parce symbole qu'il a de... le rouge. Il a la figure rouge parce qu'il a trempé sa figure, enfin son bec dans le sang de Christ.
Alors c'est à peu près ça, là, tout à même presque, quasiment ça.
Déblé, Michel, déblé.
D'ailleurs, Chardonnay s'appelle Chardonnay, pourquoi?
Parce qu'il vit sur les Chardonnay.
Voilà, ils aiment beaucoup les Chardonnay. Dans les Chardonnay, viennent se s'abreuver.
Ah oui.
Donc vous savez, dans les petites cupules qu'il y a entre les épines des Chardons, notamment des cardères. Oui. Il y a une petite cupule où il y a de l'eau.
À l'endroit où ça se raccorde à la tige.
C'est ça. Oui. Et ils viennent là, parce que c'est une espèce de petite vasque d'eau. Il est là, pour qu'on les appelle les chardonnerets, parce qu'ils boivent dans les chardons. Et vous avez raison, hein, la légende veut qu'un jour, un chardonneret, au moment où le Christ était planté en croix, et qu'il avait la couronne d'épines, une corne de chardon, finalement, d'ailleurs, hein, sur la tête, il est passé tellement près que, pouf, il a reçu une goutte du Christ. De sang. Pouf. Et cette goutte du Christ est venue s'imprimer sur la tête du chardonneret. Le chardonneret a du rouge, non pas parce qu'il a du rouge pour faire joli, mais parce que c'est une trace du sang du Christ qui l'a éclaboussé. C'est comme les âmes. Les âmes ont sur le dos une croix. C'est pas qu'ils ont sur le dos une croix. C'est que depuis qu'un âne a porté le Christ dans Jérusalem, eh bien, la marque du Christ est sur le dos des âmes. C'est la croix du Christ qui marque sur les âmes. C'est des légendes magnifiques. On n'y croit pas, le problème n'est pas là. Hein. Mais c'est de ces vieilles légendes liées au christianisme qu'on voit partout en Europe. Le chardonneret ou la marque de la croix sur le dos du Christ vient de là.
Il y a une idée d'anticipation avec le chardonneret dans les humains.
Absolument, tout à fait. Le chardonneret est là, et quelque part, il dit ce qui va arriver au Christ. Absolument. Absolument. C'est tout à fait ça. Sublime tableau, vraiment. C'est-à-dire que, vous savez, Raphaël, c'est un peintre tellement entre guillemets classique qu'on ne le regarde plus. Mais quand on le regarde, waouh! Et on est en 1506 quand même. Hein. Vous vous rendez compte? C'est fou, quoi. Hein. Tiens, on vous emmène encore avec ça.
Il y a
des images
au fond.
Ah ben,
il y a
adoré.
Ouais.
Eh oui, il y a Adam et Ève. Avec Dieu le Père, Dieu le Père qui donne les consignes, hein,
ouais.
Notamment pas toucher aux pommes. Hein.
Ouais.
Je ne sais pas, j'ai remontré ça tout à l'heure.
Oui.
Alors pourquoi je vous remontre?
Parce que c'est pas montré de la même façon, comme on est oublié.
Alors c'est vrai que c'est un peu différent, mais je pourrais vous en montrer 3000, ils seraient tous différents. Hein.
Ouais.
C'est que là, ça peut aussi représenter un peu de choses.
Non.
Ouais.
Alors. Qu'est-ce que c'est?
Je vais peut-être vous le dire, parce qu'il nous reste quelques tableaux à voir, il est déjà à la limite. Déjà une minute ? Oui, quasiment. En fait, ce tableau-là. C'est de Yann Morgan.
Ah, mais l'ancien.
L'ancien.
Mais
c'est normal, c'est Yann Morgan l'ancien. C'est-à-dire que Pierre Bruegel l'ancien, avec deux fils, Pierre Bruegel le jeune et Yann Bruegel l'ancien. Et Yann Bruegel l'ancien a eu un fils qui s'appelle Yann Bruegel le jeune. Qui est le petit-fils de Peter Bruegel l'ancien. Vous me suivez?
Oui, on
est
suivi.
C'est ça. Donc, Yann Bruegel, l'ancien, le même monsieur qu'on a vu tout à l'heure, ici représente à nouveau le paradis terrestre, sauf que ce tableau fait partie d'une série de quatre tableaux qui représentent les éléments. La terre, le feu, l'eau et l'air. Et ça, c'est le tableau qui représente la terre. Donc, vous voyez, quelquefois, il peut y avoir un double sens. C'est le paradis terrestre, mais c'est aussi la terre.
Ok.
Il y a un chien, il y a des vaches.
Un couple. Un monsieur.
Non,
c'est deux messieurs. Un vieux et un jeune. Ça vous dit quelque chose ?
Oui, mais
quoi ? Oui, mais quoi ?
Voilà.
Là aussi, je vais peut-être vous raconter pour pas que ça arrive au bout. C'est l'histoire de Mercure et Argus.
Ah,
ça vous dit quelque chose?
Ah oui, bon, on l'a vu il n'y a pas longtemps.
On en a peut-être déjà parlé. Hein.
Ouais, il y a longtemps, je crois.
En fait, Jupiter, qui est décidément est un grand séducteur, va séduire une jeune femme qui s'appelle Io. Méhera, tellement agacée de voir une conquête de plus, que Jupiter, pour essayer de calmer les choses, va transformer Io en vache. Alors lui, ça n'empêche pas de transformer de temps en temps en taureau, mais bon, bref, lui fait ce qu'il veut. Bien. Hera va décider de confier Io à une sorte de géant un peu monstrueux qui s'appelle Argus, qui était monstrueux parce qu'il avait plus de 1000 yeux. Il avait, non pas une paire d'yeux, hein, mais 1000 yeux. Donc il voyait assez clair. Un jour, Jupiter va vouloir essayer d'aller voir Io. Si vous voulez. Le problème, c'est qu'Io est gardé par Argus, donc c'est un peu compliqué. Donc Jupiter va demander à Mercure d'aller voir Argus, de l'éliminer pour que Jupiter puisse aller voir Io. Ok ? Seulement, aller éliminer quelqu'un qui a 1000 yeux, 2, c'est déjà pas simple, mais 1000, c'est encore plus compliqué. Donc, ce que va faire Mercure, c'est qu'il va lui raconter une histoire qui n'en finit plus, tellement ennuyeuse, qu'au bout d'un moment, Argus, il va s'endormir, c'est ce que vous voyez là. Et il va saisir cette occasion pour lui couper la tête.
Ah,
ça, il va prendre des livres Io. Évidemment, Hera était bien embêtée. Bon. Enfin, il en a profité pour récupérer les mille lieux d'Argus et pour les mettre sur les plumes de son animal préféré qui est le paon. Ah, tu sais, les paons, ils ont des yeux sur les ailes. Eh bien, c'est les yeux d'Argus. C'est super, quand même. C'est là qu'on voit. Alors, ça aussi, ça a été très, très souvent représenté. Parce que, vous voyez, il y a une telle poésie dans ces histoires que alors, les métamorphoses de vie n'en parlent, par exemple, de ça. C'est vraiment quelque chose qui est très, très fréquemment évoqué, très souvent présenté. Là, c'est présenté encore par un autre Rubénien. Vous sentez cet art de Rubens, là. Sauf que là, c'est pas Van Dyck, c'est pas Rubens, c'est Jordaens.
D'accord. Voilà. On a la trilogie.
Voilà, vous avez la trilogie. Alors, encore... Oui, on a encore 4 ou 5 à voir.
C'est un
couteau.
Exact.
C'est un
le loup de Gubbio. L'épisode du
loup de Gubbio. Avec Saint-François d'Assise.
Exact. Là, vous avez Saint-François d'Assise.
Et le loup.
Et le loup. Vous pouvez nous rappeler l'épisode, peut-être ?
Non.
Non. Il y avait un loup qui était terrible, qui épouvantait la région de Gubbio, qui est un petit village d'Italie. D'ailleurs, regardez, vous avez à l'arrière... Un cadavre d'un enfant déchiqueté par cet horrible loup. Mais il y a Saint-François. Et Saint-François a un lien particulier avec les animaux. Et Saint-François va réussir, en fait, à convertir le loup de Gubbio. En fait, il va passer un marché avec lui en lui disant, écoute, tu arrêtes de manger tout le monde, parce qu'il y en a marre. Mais, en contrepartie, les habitants de Gubbio vont te nourrir. Donc, tu n'auras plus besoin d'être nourri, parce qu'ils vont te nourrir. Et le loup de Gubbio est devenu un véritable chien. Qui suivait tout le monde partout, les petits enfants lui donnaient à manger, enfin voilà, c'est devenu une espèce de mascotte de la ville. C'est l'épisode du loup de Gubbio, qui est devenu
espèce de loup apprivoisé du fait de l'intercession de saint François d'Assise. Et voilà, ça c'est une œuvre de saint Celta qui date du XVe siècle. Belle histoire, ça aussi. Ah, je ne pouvais pas ne pas vous montrer ça. Ça, on a dû déjà en parler, parce que j'en parle tout le temps. Oui, j'en parle tout le temps. Voilà, c'est ça. Voilà. Et comment il s'appelle le perroquet en question ? Ververt. Ça, c'est l'histoire du perroquet Ververt. Je vous en raconte en deux secondes. Ververt était un perroquet qui était élevé dans un couvent à Nevers. Il était formidable, ce perroquet. Il vous récitait toute la Bible, le Nouveau Testament, l'Ancien, comme ça. Il vous chantait des louanges du cœur. Enfin, c'était extraordinaire. Les sœurs étaient absolument fans de Ververt. Tellement que la chose s'est sue. Les copines, je vais dire, des sœurs de Nevers, dans leur couvent de Nantes, disent un jour à leur sœur, dis donc, est-ce que vous ne pourriez pas nous envoyer le perroquet? Après tout, entre Nantes, entre Nevers et Nantes, il y a la Loire. Puis mettre le perroquet sur le bateau, il va être emmené à Nantes, et puis on pourra avoir le perroquet aussi un peu pour nous. Donc le perroquet est embarqué dans une cage et arrive à Nantes, où les sœurs de Nantes le récupèrent. Le problème, c'est que sur le bateau, il a été pendant quelques semaines, il a pris ce que les mariniers du bateau disaient. Là, ce n'était pas des prières, c'était des injures épouvantables. Et quand le perroquet arrive dans le couvent de Nantes, il lance au nom des bordées d'injures d'une vulgarité extrême. Notamment, il va être embarqué dans un bateau qui fait la démarche inverse. Le perroquet va être retourné à Nevers, où les sœurs de Nevers vont le rééduquer. Et tellement bien, en lui donnant mille dragées, etc., qu'un jour il va mourir d'une indigestion de dragées. C'est ce que vous voyez, que les sœurs sont épouvantées, l'un du s'écroule, qu'ils soient là. Enfin, c'est la mort de Ververt. Alors, c'est pareil, vous allez voir ça au XIXe siècle, en anglais. C'est un poème fait par un écrivain amiénois, un poète amiénois du XIXe, c'était Jean-Baptiste Gresset. Mais ça a eu un tel succès au XVIIIe et au XIXe, ça a été énormément représenté. Moi, j'adore cette histoire, drôle ici. Et voilà l'épisode. Et là, c'est dû à un mari qui s'appelle Auguste Coudert, qui a donc représenté l'histoire de Ververt. Voilà, je crois que j'avais encore deux petites œuvres à vous montrer. Ouais.
Un saint.
Ah, je voulais vous montrer ça parce que je trouve ce tableau délicieux.
Un chien.
Alors, il y a un chien. Oui, il y a des poissons dans l'eau. Hein, le chien les regarde, mais lui aussi.
C'est encore
Saint-François d'Assise. Tu vous sais, Saint-François d'Assise, il a toujours parlé aux oiseaux. C'est vrai.
Mais
on a vu avec le loup de Goubiot tout à l'heure. Hein. Mais il parlait également aux poissons. Là, il est en train de prêcher aux poissons. Moi, je suis fan de Saint-François d'Assise. Hein. Je trouve que c'est vraiment... voilà, c'est tellement poétique. Saint-François, il parle aux animaux. Il parle aux animaux. Mais on peut parler aux animaux, c'est bien.
Ah, ben ça, c'est clair.
Hein. Et voilà. Donc là, les poissons viennent le voir parce qu'ils ont des choses à dire. Pas merveilleux, ça. Allez, on termine par le dernier. Bon, qui est tout simple, mais que je trouve très, très marrant.
Le roi lion.
En quelque sorte, oui, mais un siècle avant. Vous auriez à donner un titre à ça, vous diriez quoi ?
Le soleil.
Les deux soleils.
Le roi soleil.
C'est un peu ça. C'est un tableau de qui ? C'est signé d'ailleurs, non ?
19e,
on est d'accord.
France.
Ouais. Quelqu'un de notre région, en plus. Donc vous le connaissez, aux petits oignons. Pardon.
Franche-Comté.
Oui. Mais de Bourgogne, Franche-Comté. Attention. De la partie franc-comtoise de la Bourgogne-Franche-Comté. Il est né à Vesoul, comme Jacques Brel. Ben non, je sais bien qu'il n'est pas né à Vesoul, vous connaissez
la
chanson.
Vous voulez voir Vesoul.
J'en ai
peintre de Vesoul. Un peintre universellement connu. Hein. Il y a plus de gens aux États-Unis qu'en France.
Les deux
majestés. Les deux majestés. Il y a vraiment le roi des animaux qui représente le roi, qui regarde le roi des arts.
Et ce sont inspirés
ça. Je voulais terminer par ça, parce qu'évidemment, c'est un tableau qui montre. Alors d'abord, cette idée est volontiers montrée, mais voilà, c'est un tableau qui montre cette espèce d'esprit essentiel de l'animal dans certains tableaux. En tout cas, tous les tableaux que nous avons vus là aujourd'hui sont vraiment des thèmes récurrents, permanents. Vous allez voir, revoir et revoir dans des quantités d'œuvres entre le Moyen-Âge et le début du XXe. Hein. On a donc une sorte de corpus qu'on aurait pu agrandir encore, hein, de thèmes récurrents, de leitmotiv qui vraiment maille l'histoire de l'art occidental à cette période.
Il a quelle dimension ce tableau ?
Elle
n'est
pas très
bien.
1,50 à peu près. Oui, c'est un tableau très marrant. Enfin, je trouve qu'il était, je l'ai dit à la fin, parce que je trouve qu'il est très symbolique de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ben voilà, on se retrouve la semaine prochaine. C'est bien la semaine prochaine.
Non, c'est vacances.
Dans 15 jours, vous êtes en vacances.
Trois semaines.
Trois semaines. Bossez pendant vos vacances. Hein. Parce que qu'on ne fasse pas le coup de par connaître Ténier et tout, et boucher. La fois prochaine, il va falloir assurer. D'accord. Allez, bonne fois, 15 jours.
Bon, on va réessayer notre coup, hein.